Vous écoutez Radio France Internationale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 13h en temps universel, 15h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain avec le Venezuela à la une. La campagne électorale commence aujourd'hui pour la présidentielle du 28 juillet, présidentielle sans suspense. Et pour l'occasion, Nicolas Maduro a prévu des rassemblements massifs dans 70 villes du pays. Un pays où le quotidien est de plus en plus difficile. Reportage de notre correspondante dans quelques minutes. Nous appellerons également tout à l'heure notre confrère haïtien Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, pour parler de l'actualité de la visite aux États-Unis du Premier ministre haïtien de transition. Et puis l'actualité des Outre-mer avec Oda Naji Ali. À la une, la dégradation des hôpitaux en Martinique.
Du centre hospitalier du Marin au sud-ouest de l'île, les syndicats alertent l'agence régionale de santé sur la vétusté de l'établissement alors que la saison cyclonique ne fait que commencer. À tout à l'heure, Anne.
À tout à l'heure, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes et tout de suite, le journal. L'essentiel de l'actualité internationale avec vous, Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour Anne.
J-3 avant le second tour des élections législatives en France.
Et il est temps que la campagne se termine, compte tenu des incidents qui l'émaillent. Plusieurs candidats de tous bords ont été victimes d'agressions. La tension est encore montée d'un cran hier soir, après que la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, et son équipe ont été prises à partie en région parisienne. Auparavant, mercredi, une candidate RN avait été violemment agressée sur un marché de Savoie. Devant ce climat qui se tend, les différentes forces politiques françaises se positionnent différemment. Raphaël Delvolvé.
Évidemment, l'enjeu, c'est de paraître comme le camp de l'apaisement. Gabriel Attal, le Premier ministre, a réagi tout à l'heure.
Il y a des tensions dans le pays, c'est une évidence. Et vous avez face à ça des personnes qui parfois soufflent sur les braises, cherchent à attiser les tensions. Moi, je fais partie de ceux qui chercheront toujours l'apaisement et à prôner l'apaisement.
Désigner des responsables qui souffleraient sur les braises sans les nommer, le chef du gouvernement cherche un équilibre. La députée Rassemblement National, Marine Le Pen, elle, fait l'inverse. Elle accuse ce matin sur les antennes d'RMC.
Il y a une ambiance, encore une fois, qui a été créée par l'extrême gauche. Elle manifeste, elle brûle, elle casse.
Accusation sans nuance de Marine Le Pen, bien que des militants d'ultra-droite soient également impliqués dans certaines violences de la campagne. À gauche, les ténors du Nouveau Front Populaire cherchent également l'apaisement. François Ruffin ne cache d'ailleurs pas son inquiétude ce matin sur RTL.
On avait déjà un pays qui était au bord du burn-out national et là, c'est un risque de crise de nerfs, quoi.
Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a toujours pas réagi sur les tensions. Au plus haut sommet de l'État, on s'inquiète en tout cas d'une situation pouvant se dégrader. Le ministère de l'Intérieur annonce un dispositif renforcé pour dimanche, craignant des violences, notamment de la part des groupes d'ultra-droite et d'ultra-gauche, en fonction des résultats.
Et dimanche, pas moins de 30 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris, seront mobilisés. Il reste moins de 2 jours de campagne avant la clôture demain soir. Actuellement, les adversaires du Rassemblement national s'activent pour l'empêcher de gagner dimanche avec la majorité absolue des sièges à l'Assemblée, majorité absolue fixée à 289 sièges. Et d'après l'un des derniers sondages, Tuluna Harris Interactive, eh bien le RN et ses alliés sont crédités de 190 à 220 sièges. 46 millions d'électeurs sont appelés à voter au Royaume-Uni où se tiennent là aussi des législatives anticipées. Après 14 ans passés au pouvoir et gagnés par l'usure, le Parti conservateur est donné battu. L'alternance doit ramener au 10 Downing Street le Labour, aujourd'hui mené par Keir Starmer. Cet ancien avocat d'apparence austère a promis le retour du sérieux au pouvoir. Son portrait avec Antoine Galen.
Trop centriste pour certains ou simplement pragmatique pour d'autres, ce juriste de 61 ans qui a pris les rênes du Labour début 2020 en pleine déroute électorale a mené une campagne sans éclat. Ancien avocat spécialisé dans les droits humains, il a par le passé défendu plusieurs condamnés à mort dans les Caraïbes ainsi que des écologistes accusés de diffamation par McDonald's. Keir Starmer, fils d'un outilleur et d'une mère infirmière, est connu pour être un travailleur compétent au style sévère, sans grand charisme, présenté comme un candidat trop lisse. Celui qui pourrait poser ses valises au 10 Downing Street est un europhile. Il souhaite reconstruire le système de santé, relancer la croissance tout en protégeant les travailleurs précaires et en développant la production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le candidat du Labour a voulu s'éloigner de la politique très à gauche de son prédécesseur, Jeremy Corbyn. Un choix dénoncé par ses opposants. Keir Starmer a refusé d'annuler le plafonnement des allocations familiales à partir du deuxième enfant enfants. Il est aussi revenu sur les 28 milliards de livres par an initialement promis pour atteindre les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. Il ne fait donc pas figure d'épouvantail. D'ailleurs, même les marchés financiers appellent à voter pour lui.
Keir Starmer, donc bien parti pour prendre la suite de Rishi Sunak au Royaume-Uni, où les bureaux de vote resteront ouverts ce soir jusqu'à 22h, 21h temps universel. Les premières estimations, elles, sont attendues à la clôture de ces bureaux.
Au Venezuela, on votera le 28 juillet prochain pour la présidentielle et la campagne électorale commence aujourd'hui.
Oui, elle est lancée à l'approche de cette présidentielle à laquelle se présentent 10 candidats. Mais seuls 2 d'entre eux ont une chance réelle d'accéder au pouvoir. Le président sortant Nicolas Maduro, candidat à sa réélection, et Edmundo González Urrutia, candidat de la coalition d'opposition, le PUD, menée par Maria Corina Machado. Marine Lebec, bonjour.
Bonjour.
Les candidats ont 21 jours précisément pour convaincre leurs électeurs, mais ils n'ont pas attendu pour lancer les hostilités.
Oui, une campagne que la plateforme de l'unité démocratique, la coalition d'opposition, juge entravée par le parti au pouvoir. Déjà en janvier dernier, la gagnante des primaires de l'opposition, Maria Corina Machado, avait été évincée de la course rendue inéligible par le président Nicolas Maduro. Un autre candidat, Edmundo González Urrutia, plus discret, moins charismatique, a accepté de la remplacer. Au pied levé, c'est désormais pour lui que la leader de l'opposition fait campagne et continue en parallèle de dénoncer les arrestations et le harcèlement de leur soutien par le parti au pouvoir. En face, Nicolas Maduro, candidat à sa réélection, n'hésite pas à qualifier de mouvement terroriste le parti politique de Maria Corina Machado. « Ils me poursuivent pour attenter à ma vie », a-t-il déclaré à la télévision, référence à la tentative d'assassinat dont il dit avoir été victime. Et les 21 prochains jours avant le scrutin risquent de faire encore monter la tension. Dans les deux camps, on a vu grand. Nicolas Maduro a prévu aujourd'hui de réunir ses partisans dans de grandes manifestations, principalement à Caracas, la capitale, tandis que l'opposition lance symboliquement sa campagne dans le nord de la capitale à Petare, le plus grand bidonville d'Amérique latine.
C'était Marine Lebec. Merci à vous, Marine. J'ajoute qu'actuellement, les sondages donnent vainqueur le candidat de l'opposition au Venezuela, Edmundo González Urrutia. Le président brésilien Lula caresse les agriculteurs dans le sens du poil. Il vient de présenter un plan de financement destiné au secteur agricole d'un montant record de 72 milliards de dollars. Ce plan représente sa dernière chance pour convaincre les agriculteurs brésiliens, largement opposés à son gouvernement. Plus de détails avec Agnieszka Kumor.
Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement brésilien alimente son grand programme de financement des cultures, baptisé Plano Safra. Il permet d'octroyer des crédits aux exploitations agricoles et aux ranchs. Seulement une petite partie du plan, 13 milliards de dollars sur un total de 72 milliards de dollars, sera destinée aux fermes familiales. Le Brésil est l'une des grandes puissances agricoles du monde. L'industrie agricole représente un quart du produit intérieur brut brésilien. La production intensive de soja profite à la demande chinoise. Le pays exporte aussi le maïs, le sucre, le café ou encore le coton, souvent au prix de graves déséquilibres environnementaux et sociaux. Après son retour au pouvoir en 2022, le leader de la gauche brésilienne, Lula, a promis de mettre fin à la déforestation illégale d'ici 2030. Mais il doit constamment composer avec le Parlement dominé par les alliés de l'ancien président Jair Bolsonaro, où règne le puissant lobby agricole.
C'était Agnieszka Kumor. Enfin, en bref, alors que la bande de Gaza continue d'être bombardée par Israël, la situation se dégrade au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Le Hezbollah, allié du Hamas et soutenu par l'Iran, annonce avoir tiré quelques 200 roquettes et lancé des drones explosifs vers l'État hébreu. C'est sa riposte à l'élimination par Israël d'un de ses commandants dans le sud du Liban. Enfin, en Russie, un tribunal de Moscou a rejeté ce matin en appel la demande de remise en liberté du français Laurent Vinatier, collaborateur d'une ONG suisse. Il a été arrêté début juin. Cet homme de 47 ans est accusé d'avoir recueilli des informations militaires sensibles. Bonne journée sur RFI. Tout de suite, la suite d'RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. RFI Midi suite et fin. Nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel.
RFI, la radio del mundo.
On en parlait tout à l'heure dans le journal. Coup d'envoi officiel de la campagne électorale au Venezuela aujourd'hui. Un peu plus de 3 semaines de meetings, de débats avant la présidentielle du 28 juillet. Le sortant, Nicolas Maduro, sera opposé dans les urnes à l'opposant Edmundo González Urrutia, quasiment inconnu du grand public. Il n'est là que pour remplacer la leader Maria Corina Machado, qui, elle, est bien plus populaire et a été écartée de la course. La campagne qui commence sera l'occasion de parler des préoccupations des Vénézuéliens, à commencer par le coût de la vie, la crise économique qui n'en finit pas dans un pays où plus de la moitié de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Illustration des difficultés quotidiennes dans notre dossier du jour. Il est signé Alice Campagnol, correspondante à Caracas.
Soulaï est venu faire ses courses dans ce quartier commerçant de la ville de Caracas et rien n'est laissé au hasard pour la mère de famille qui accumule les petits boulots.
Moi, j'achète là où les produits sont le moins chers possible. Aujourd'hui, je n'ose même pas rentrer dans les magasins tellement c'est cher.
Car si l'hyperinflation est terminée depuis plusieurs années au Venezuela, les prix sont toujours élevés. Le panier des ménages est à 515 euros par mois pour une famille de 5 personnes, soit 155 salaires minimum. Carlos est serveur, il dit correctement gagner sa vie, mais pourtant pas facile de boucler les fins de mois avec une inflation toujours bien présente.
Ici, les prix ne baissent jamais. Au contraire, tout augmente. C'est vrai que ces derniers temps, depuis 6-7 mois, les prix étaient stables. Mais là, ça a encore augmenté. Pas beaucoup, mais ça a augmenté. Un kilo de viande, ça coûte 7-8 dollars. Il a fallu supprimer certains produits des repas. La viande, on en mange peu. Et pas mal de céréales, et ce que Dieu veut bien nous donner. Ce n'est pas toujours facile.
Pour Heidi aussi, qui fait du lèche-vitrine, tout est trop cher. Mais c'est son fils qui se charge des courses alimentaires.
Moi, je ne fais pas les courses. C'est mon fils qui les fait pour moi, parce que je suis à la retraite. Et voilà, il a décidé qu'il ferait ça pour moi, qu'il achèterait ce dont j'ai besoin. Mais parfois, je vais faire quelques achats et je dois beaucoup marcher, car je compare les prix dans plusieurs magasins.
Le sociologue Luis Pedro España, chargé de l'enquête sur les conditions de vie au Venezuela, Encovi, confirme que les retraités font partie des plus vulnérables dans le pays.
Il y a plusieurs groupes fragiles dans le pays. Les personnes du troisième âge en sont évidemment un. Premièrement, on ne peut pas parler de retraités dans le pays, c'est un euphémisme car les retraites n'existent pas. Il y a certaines personnes qui reçoivent des sommes qui vont jusqu'à 25 dollars par mois, quelque chose comme ça. Les personnes âgées sont très impactées par la récession car leurs enfants ou leurs petits-enfants ont pu s'échapper à la crise en quittant le pays. Mais pour eux, c'est évidemment beaucoup plus difficile. D'ailleurs, ils sont, je crois, les premiers destinataires des transferts d'argent de l'étranger aujourd'hui dans le pays. Les transferts monétaires au Venezuela atteignent 2000 millions de dollars dans un pays producteur de pétrole et où les revenus du brut oscillent entre 12 000 et 14 000 millions de dollars. Ce n'est donc pas rien.
Ils sont plus de 7 millions à avoir quitté le pays, principalement pour des raisons économiques. Et pour ceux qui sont restés, plus de la moitié d'entre eux a toujours des difficultés pour satisfaire son alimentation. Luis Pedro España.
En général, il y a une grande précarité alimentaire au Venezuela. Alors certes, pas comme il y a 3 ou 4 ans, où il n'y avait tout simplement pas de consommation alimentaire, car il n'y avait pas de produits. Le régime de base des Vénézuéliens est composé en grande partie de glucides, qui comblent la faim, mais ne nourrissent pas correctement.
Aujourd'hui, 12% de la population affirme avoir déjà passé toute une journée sans manger l'an dernier. Malgré une timide reprise économique, la faim est toujours une réalité au Venezuela. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
On l'a entendu dans le reportage de notre correspondante, la pauvreté gagne du terrain et le difficile quotidien des Vénézuéliens est au cœur de la campagne. L'inflation, le pouvoir d'achat et puis à l'approche de cette élection, une question revient dans la presse du continent, Vincent Souriau. Plusieurs journaux se demandent à quel point les discussions qui reprennent avec les États-Unis peuvent peser sur la présidentielle du 28 juillet.
C'était hier par visioconférence et ça ne tombe pas du ciel. On sait que Washington et Caracas n'ont plus de relations diplomatiques depuis 2019, mais que les deux pays se parlent discrètement, mais ils se parlent, processus engagé l'an dernier sous les auspices du Qatar, échange de prisonniers en décembre, réunion secrète au Mexique en avril et cette fois donc dialogue public et officiel.
Alors pourquoi Et pourquoi maintenant ?
Eh bien, comme toujours au Venezuela, deux lectures. Celle d'abord d'un organe chaviste, Ultimas Noticias. On y lit que la montée de l'extrême droite en Europe fait disparaître des gouvernements qui étaient jusqu'ici, je cite, des satellites naturels de Washington. Que les Américains font l'objet d'un rejet total dans le monde musulman en raison de leur soutien à Israël. Que la Russie, la Chine, les BRICS remettent toujours plus en question l'hégémonie du dollar. Bref, que la Maison-Blanche adopte une approche pragmatique parce qu'elle serait sur le point de couler et n'aurait aucune raison de perpétuer le conflit avec Nicolas Maduro qui, d'après le journal, a toutes les chances d'être réélu.
Mais ça n'est pas tout à fait comme ça qu'El Tiempo voit les choses.
Non, parce que d'après l'analyse d'Anna Maria Rodriguez Brazón, la clé, ce sont les sondages. Contestés, c'est vrai, ces sondages. Mais d'après les enquêtes d'opinion, Maduro est à la traîne, loin derrière le candidat du bloc d'opposition. Et ça pourrait bien être ça, écrit-elle, le facteur déterminant de ce rapprochement surprise avec Washington. Non pas parce que Maduro pense qu'il va faire un retour, mais parce qu'il doit négocier sa sortie. À très court terme, en tout cas, explique encore El Tiempo, les États-Unis veulent s'assurer que Nicolas Maduro ne va pas suspendre ou disqualifier la candidature de son adversaire politique. Et le gouvernement vénézuélien, pour sa part, cherche la reconnaissance de la communauté internationale s'il parvient à maîtriser ce scrutin de bout en bout.
On n'en est pas là, hein, et Joe Biden a déjà une montagne devant lui, assurer sa propre réélection. Le camp démocrate est toujours en ébullition après le débat catastrophique du président américain la semaine dernière, et les langues commencent à se délier. Il y a eu ses fuites dans le New York Times disant qu'il réfléchissait au maintien de sa candidature. Il y a eu ses élus démocrates qui n'ont plus peur d'appeler à son retrait, et il y a Joe Biden qui s'accroche. Pas question de passer la main, Vincent, c'est ce que ses équipes ont martelé hier.
Et qui sera surpris, s'interroge Charles Blow dans New York Times. À ce stade de la campagne, les candidats sont déjà scotchés à la fusée qui va décoller. D'ailleurs, tous les prétendants à la fonction présidentielle aux États-Unis et surtout ceux qui sont déjà passés par là, ont un complexe divin. Ils se prennent pour Dieu et, on le sait bien, le doute n'existe pas. Ah, en présence de Dieu, il y a des kilos de conseillers et de confidents payés pour tenir le doute à l'écart. Introduire le doute, conclut Charles Blow, ce serait commettre un blasphème.
Et pourtant, il va bien falloir revenir sur terre parce que chez les électeurs, les sympathisants, les militants, les élus démocrates, le doute est là et bien là depuis le débat. La Maison-Blanche l'a compris et elle veut prouver que ce n'était qu'un mauvais jour, que le président est encore bien affûté malgré ses 81 ans. Moment de vérité, demain, avec une interview sur ABC et puis une conférence de presse la semaine prochaine en marge du sommet de l'OTAN. Deux moments cruciaux pour Joe Biden. Le président américain n'a plus le droit à l'erreur. La moindre hésitation sera scrutée de très près, comme l'explique Corentin Célin, historien et spécialiste des États-Unis.
Désormais, il va être observé sous toutes les coutures en permanence et sa performance au premier débat fait qu'il n'a guère plus de chance de répit. Si jamais il a de nouveau un moment d'absence ou un moment de désorientation, la pression deviendra encore plus forte. Donc effectivement, pour les démocrates et pour Biden, c'est un moment très compliqué parce qu'il n'a pas d'occasion de se refaire durant l'été et en même temps, il est maintenant vraiment sur le grill concernant ses facultés.
Des yeux inquisiteurs partout, tout le temps, encore plus que dans une campagne classique, ça sera difficile. Alors, dans l'hypothèse où Joe Biden perdrait de nouveau la face, s'écroulerait à la télévision comme la semaine dernière, et s'il acceptait effectivement de jeter l'éponge, que se passerait-il pour les démocrates ? Eh bien, il faudrait aller très vite et trouver un plan B avant la date butoir du 19 août, date de la convention démocrate. C'est ce que nous explique Corentin Célin.
Si les démocrates veulent changer de candidat, il faut impérativement le faire avant la convention. La convention, on le rappelle, c'est la réunion de tous les délégués qui ont été désignés pendant les élections primaires, qui sont pour l'instant à la quasi-totalité acquis à Joe Biden, mais qui pourrait être donc libéré par son retrait. Cela permettrait en quelque sorte au Parti démocrate d'organiser une convention qui est d'abord un spectacle qu'on offre au public et à la nation, d'offrir un spectacle en bon ordre avec, j'allais dire, la désignation d'un remplaçant qui serait bien organisé.
Corentin Célin, interrogé par Abla Jounaïdi. Vincent Souriau, vous qui avez lu les journaux, on va continuer un peu avec vous. Cette politique fiction, l'hypothèse, le retrait donc de Joe Biden. Dans ce cas-là, qui prend sa place?
Eh bien, pourquoi pas une femme? Et pourquoi pas Gretchen Whitmer, gouverneure démocrate du Michigan, étoile montante du parti. Dans le Washington Post, l'éditorialiste Perry Bacon Jr. fait remarquer que son bilan local pourrait séduire à la fois les modérés et les progressistes chez les démocrates, que cette possibilité n'a pas vraiment été explorée jusqu'ici, à peine deux sondages, mais que selon ces deux enquêtes, dans le cas d'un duel avec Donald Trump dans le Michigan, elle l'emporterait largement, là où Joe Biden finirait, lui, derrière son adversaire. Il y a beaucoup, beaucoup de profils intéressant, Anne, pas trop le temps de faire la liste exhaustive, mais le Washington Post met aussi Gina Raimondo en lumière, actuelle ministre du commerce de Joe Biden, ancienne gouverneure de l'État de Rhode Island. Elle a réduit les impôts, elle a augmenté le salaire minimum, elle a attiré de nouvelles entreprises dans son État, étendu l'accès aux énergies renouvelables, excellé dans la gestion de l'épidémie de Covid. Avec elle, l'Amérique, nous dit David Vandrell, pourrait enfin élire sa première présidente.
Vincent, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes après une étape en Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Où nous attend notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
À la une de votre journal, la suite de la visite aux États-Unis du Premier ministre de transition, Gary Conney, était à New York hier, aux Nations Unies.
Tout à fait. Le Premier ministre a présenté devant le Conseil de sécurité le chemin qu'il compte emprunter pendant la transition. Il a présenté ses projets, sa vision, les attentes du gouvernement haïtien envers la communauté internationale pour un peu recalibrer l'aide qui est offerte à Haïti. Il n'a pas caché les difficultés. 12 000 hommes qui tiennent en otage 12 millions d'Haïtiens. C'est la situation des gangs. Il a redemandé encore de l'aide, un appui. En réalité, le Premier ministre est venu parler d'avenir, mais aussi du présent. Du présent, c'est les difficultés sécuritaires. Et en réalité, pas grand-chose ne pourra se faire s'il n'y a pas une amélioration sur ce front-là. Et pour que cela arrive, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, à la fois pour matérialiser la mission dans son intégralité. Pour le moment, il n'y a que 200 Kenyans à Port-au-Prince. Et aussi de l'argent pour pouvoir faire des projets à la fois sociaux et relancer l'économie.
Et puis cette réunion du Conseil de sécurité, elle était l'occasion aussi, France, pour plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, de demander de nouvelles sanctions contre des personnalités haïtiennes.
Il faut dire que c'est comme pour la mission, la menace des sanctions, c'est une menace qui traîne depuis des mois, des années même, et certains pays ont essayé de mettre sur place des listes de sanctions, mais ça n'a pas donné de résultats concrets, car personne n'a été poursuivi jusqu'à présent. Le Conseil des sanctions des Nations Unies s'est réuni, a visité Haïti, prépare un rapport. Chaque mois, on dit que le rapport va être publié, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il faut dire qu'il y a des divergences au sein du Conseil de sécurité sur qui doit être sur cette liste et à partir de quelles preuves, de quelles accusations. Est-ce qu'il faut du concret, du solide? Est-ce qu'il faut d'abord poursuivre ceux qui expédient les armes vers Haïti, ceux qui produisent les armes vers Haïti, ceux qui financent le désordre en Haïti? Il y a des différences d'appréciation pour les membres du Conseil de sécurité. Et pour le moment, il n'y a pas encore de vraie liste de sanctionnés émises par les Nations Unies.
Voilà, discussion donc à l'occasion de la visite de Gary Conney. Le Premier ministre donne l'impression d'être sur tous les fronts, écrit Le Nouvelliste dans son éditorial. Ce qui amène votre journal à se poser cette question, que fait le Conseil présidentiel de transition?
Le Conseil présidentiel de transition a quasiment disparu. En réalité, ils se font très discrets. Il faut dire qu'ils ont perdu toutes les batailles, ils ont perdu le sens de l'initiative. Ils n'ont pas réussi à faire les deux ou trois choses qu'ils voulaient vraiment faire eux-mêmes. Mais en réalité, c'est la Constitution haïtienne qui donne très peu de place au président de la République. L'exécutif a deux têtes, c'est les bras c'est le Premier ministre, la tête c'est le président, le Conseil présidentiel c'est la tête, le Conseil présidentiel est pour le moment est en train de réfléchir sur plein de sujets, mais il faut dire que le Premier ministre Gary Conney prend toute la lumière, il s'est même permis d'annoncer par WhatsApp à 3h du matin son départ pour Washington avant son voyage aux États-Unis la semaine dernière.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. On peut vous lire sur le site lenouvelliste.com et nos auditeurs vous retrouvent jeudi, comme chaque semaine.
RFI, The World's Voices.
On vous retrouve, Vincent Souriau, toujours là, pour une dernière carte postale de Floride.
Avec en photo une certaine Karine Rousseau qui sera sur scène ce week-end pour tenter de décrocher le Graal, le titre de Miss Floride 2024, bikini et compagnie. On connaît la musique, hein, sauf qu'elle a 63 ans, Karine Rousseau. Pour la première fois cette année, les organisateurs ont fait sauter la limite d'âge, 28 ans. Jusqu'ici, on ne pouvait pas non plus se présenter si l'on était maman ou marié. Donc tout ça, c'est fini. Alors du haut de ses 7000 followers sur TikTok, Karen Rousseau veut casser la baraque. De quoi a-t-elle l'air? On avait dit pas le physique, mais bon, c'est un concours de beauté. Rousseau a l'air d'avoir 35 ans, tout simplement. Son secret, ce serait de rigoler et de s'entretenir. Hein, 10 minutes d'exercice le matin, régime équilibré. Et puis, pas un gramme de Botox de toute sa vie, c'est elle qui le dit. Concours à suivre en direct entre ce vendredi et ce dimanche soir sur MissFloridaUSA.com. Et puis, Anne, on ira bien faire un tour sur son compte TikTok pour se faire une idée.
Je dois dire que j'étais en train déjà de jeter un coup d'œil. Au moins, on connaît la recette. Merci Vincent Souriau pour la revue de presse.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, Oda Naji Ali, on commence par parler de la Martinique, où la vétusté de l'hôpital du Marin inquiète les syndicats.
Les toitures défectueuses, infiltrations et même patients réveillés en pleine nuit par des fuites d'eau. Ça, c'était lors du passage de l'ouragan Beryl en début de semaine. Le centre hospitalier du Marin au sud-ouest de la Martinique, dans un état d'autant plus inquiétant que la saison cyclonique débute à peine aux Antilles. Peggy Peria, secrétaire de la CDTM Santé au sein de l'établissement, interpelle l'Agence régionale de santé locale.
Ce que nous demandons aujourd'hui à l'ARS, c'est d'intervenir et de permettre que des travaux de rénovation de la toiture soient engagés en urgence. Il suffira qu'un phénomène météorologique beaucoup plus virulent soit annoncé pour que ce soit la catastrophe dans l'établissement. Nous le disons haut et fort. Nous demandons à l'ARS de se pencher également sur l'état des murs, l'infrastructure en elle-même. Les murs sont imbibés d'eau. Les plafonds des unités de soins à certains endroits, ils sont criblés de moisissures. Les couloirs sont inondés d'eau. Le personnel du CH Marin demande si ces conditions de travail et si ces doléances seront prises en compte à un moment par la direction.
Des propos recueillis par Ronan Bonnec de Martinique la Première. La centrale à charbon du Moule en Guadeloupe convertie au 100% biomasse d'ici 2025. Annonce hier de son opérateur, le groupe Albioma. L'unité de production devrait réduire de 87% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à son fonctionnement actuel, selon Albioma. La centrale du Moule, c'est aujourd'hui la dernière centrale à charbon d'outre-mer. Et puis deux vases précolombiens pouvant être des urnes funéraires découvertes cette semaine à Saint-Laurent-du-Maroni, à l'ouest de la Guyane. Vestiges exhumés dans le cadre de fouilles archéologiques préventives menées par l'INRAP sur le site de l'ancienne maison du receveur. Une découverte qui éclaire l'histoire riche et complexe de Saint-Laurent-du-Maroni, village amérindien et ancienne capitale pénitentiaire de la Guyane. Gaëtan Juillard, responsable de recherche archéologique à l'INRAP avec Pierre Tréfou.
Saint-Laurent est fondé en 1857. On déplace un village amérindien et jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de vestiges précolombiens en place. Par contre, on avait un bruit de fond, c'est-à-dire on avait 3-4 tessons qui étaient un peu éparpillés sans vraiment de structure. Là, on a deux urnes qui sont, deux céramiques qui sont posées, qui sont là et qui n'ont pas bougé depuis la période amérindienne. Il est important et de le prélever de la meilleure des manières avec, j'allais dire, tout le respect qui lui est dû. Et nous, on vient entre guillemets perturber ça, mais c'est... J'allais dire c'est pour la bonne cause, c'est pour éviter qu'il soit réduit en bouillie sans qu'on sache ce qui s'est passé, quoi. Et l'idée, c'est de pouvoir acquérir des connaissances et en même temps de permettre un développement économique ou d'infrastructures qui soit important pour les gens.
Les fouilles archéologiques à Saint-Laurent-du-Maroni se poursuivent encore pendant quelques jours. Et puis nous, on se retrouve demain. Bonne journée, Anne.
À demain, Dana Gialli. Nous, on va se quitter avec un petit peu de musique. Voilà, vous avez entendu le titre dès le début du morceau Mackenzie du groupe Houndmouth aux États-Unis. Ils joueront ce soir à New York. Et ça n'est pas rien, hein, c'est la fête nationale aujourd'hui aux États-Unis. Slept on the sofa tonight, Hudson Froze. Houndmouth et le morceau Mackenzie pour terminer RFI Midi aujourd'hui. L'émission était réalisée par Vincent Bito. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 11h, temps universel. Mais vous restez sur notre antenne dans un peu plus de 30 secondes maintenant, de vive voix avec Pascal Paradou. Très bonne journée à tous.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Comment l'intelligence artificielle générative permet de falsifier l'histoire du génocide des Juifs par les nazis? L'UNESCO interpelle chercheurs, enseignants et politiques pour trouver des garde-fous contre la réécriture de l'histoire. On en parle avec Karel Frakapan, en charge de la lutte contre les discours de haine à l'UNESCO.
Les dessous de l'Infox, avec Sophie Malibaud, tous les vendredis à partir de 17h30 TU sur RFI.